Luc, chapitre 19, à partir du verset 11. Cela fait plusieurs semaines que nous étudions ensemble les paraboles de Jésus. Les paraboles sont des petites histoires, des illustrations que Jésus a données pour expliquer la foi, les réalités spirituelles. Et ces paraboles, elles font partie des histoires les mieux connues de la Bible parce qu'on les retient facilement. Parfois des expressions qui entrent dans notre langage courant. Le fils prodigue, le bon samaritain et d'autres. Et donc ce matin, nous allons regarder une parabole. On parle de la parabole des 10 mines. Alors pour comprendre cette parabole, cette histoire, c'est vrai, il faut connaître un peu au sujet de l'argent et des banques et de l'investissement, des investissements financiers. J'ai demandé à mes enfants ce matin dans le trajet vers l'église, est-ce que vous connaissez la bourse, les placements en bourse, les actions. Donc j'ai dû faire un petit exposé de la bourse. Mais donc les jeunes, vous pouvez demander à vos parents comment ça marche. Mais vous savez, avec l'argent qu'on a, on peut dépenser. Parfois on a besoin de dépenser, on le dépense. Ou bien on peut l'épargner, on peut le mettre dans un tirelire au fond d'un tiroir. Et voilà, elle est là. Vous mettez 10 euros dans un tirelire. Vous revenez 10 ans plus tard, si personne l'a touché, si personne l'a volé, il y a encore 10 euros. Alors, peut-être la valeur est un peu moins, parce que le pouvoir d'achat et la vie a avancé, mais il y a toujours 10 euros. Ou bien, vous pouvez dépenser votre argent, vous pouvez l'épargner, ou vous pouvez l'investir. Et ça, c'est tout le travail des banques, et c'est assez complexe, l'économie, mais on peut investir son argent, on peut prendre ces 10 euros, l'investir, et avec le temps, ça rapporte d'autres argent. C'est un peu c'est le mystère de l'économie et des investissements, mais c'est la réalité. Donc, avec ces idées qui existent depuis longtemps et qui encore font fonctionner notre société, Jésus va donner une histoire, une parabole pour expliquer notre vie de foi, notre vie de service. Donc, lisons Luc chapitre 19, verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, ils envoyaient une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fit de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te jure sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque? Afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, mais Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Alors, comme vous savez, les orateurs, les prédicateurs, ils aiment bien utiliser et réutiliser les mêmes illustrations accrocheuses. Pour ceux qui sont là depuis 30 ans, vous connaissez que les pasteurs aiment les mêmes illustrations parfois. Eh bien, Jésus, c'était le maître des histoires et des illustrations. Et une des illustrations préférées de Jésus, qui revient à plusieurs reprises, c'était l'histoire d'un maître qui part en voyage et qui remet l'intendance de ses biens à des serviteurs. Jésus a raconté cette histoire avec plusieurs variations pour enseigner différentes choses, mais l'histoire de base est souvent la même. Un maître part loin, remettant l'intendance de ses biens à des serviteurs. Après, il revient et demande des comptes de leur gestion. Et cette illustration est pertinente parce que cela nous aide à comprendre une réalité particulière du plan de Dieu, de son royaume, qui parfois, pour nous, difficile à vivre, tout comme c'était difficile à comprendre à l'époque de Jésus, c'est que le plan de Dieu, le plan de Jésus, le plan du salut pour nous, pour notre monde, s'est passé en deux étapes, en deux phases. Jésus est venu il y a 2000 ans, il est mort, il est ressuscité, on a célébré ces choses par le baptême encore ce matin, il a accompli notre salut, et puis il est reparti au ciel. Il est reparti au ciel pour un temps indéfini, et une deuxième phase, il va revenir, il va juger, il va restaurer toutes choses. Et ce laps de temps, c'est entre les deux, entre ce qu'il a accompli par sa mort et sa résurrection, et puis le retour que nous attendons, ce laps de temps où il est absent, en tout cas physiquement absent, bien qu'il ait promis d'être avec nous tous les jours, on ne le voit pas, il est invisible. C'est certainement la raison principale que le monde aujourd'hui ne pense pas à lui, ne veut pas croire en lui, ne s'intéresse pas à lui, ne veut pas vivre pour lui, parce qu'on ne le voit pas, il est absent, il semble absent. Parce qu'aujourd'hui, on veut du concret, on veut des solutions instantanées. Mais c'était aussi un peu l'attente des premiers disciples. Ils attendaient à ce que Jésus inaugure et installe son royaume immédiatement. Alors, le verset 11 dit que Jésus a donné cette parabole parce qu'il y avait des gens qui croyaient qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait apparaître. Mais il va laisser entendre par cette histoire et bien d'autres dans les évangiles que la solution finale ne va pas venir immédiatement. J'ai quelque chose à faire. Donc, il raconte cette histoire d'un maître qui part en voyage dans un pays lointain. Et le fait que c'est un pays lointain signifie quand même que ça va prendre un certain temps qu'il reparte et qu'il revienne. Et c'est aussi ce que Jésus a fait. Il est reparti au ciel, déjà roi de l'univers par sa mort et sa résurrection. Mais on attend, et pour certains ça peut paraître long, mais on attend encore son retour. Mais pendant qu'il est parti, notre travail en tant que son peuple, en tant que son église, en tant que ses serviteurs, notre travail n'est pas de s'inquiéter de son absence, n'est pas de s'ennuyer, n'est pas de poireauter. Notre travail, c'est de servir, c'est de gérer fidèlement les biens qu'il nous a confiés en attendant qu'ils reviennent. Alors la question pour vous ce matin, d'après cette histoire, quelle est votre stratégie spirituelle d'investissement et de placement des ressources et des biens que Dieu vous a donnés? Et ça tombe bien, c'est un jour de baptême, les baptêmes c'est un premier acte d'obéissance, mais ça ouvre toute une vie de service, et ce baptême nous rappelle à nous tous, nous qui sommes baptisés, que nous nous sommes aussi engagés à suivre le Seigneur et à le servir, et cette parabole nous appelle au service, un service fidèle dans le temps en attendant son retour. Quelle est votre stratégie spirituelle d'investissement et de placement? Comment gérez-vous le temps et les ressources que Dieu vous donne? Alors j'aimerais juste remarquer deux choses dans cette parabole pour faire ressortir plusieurs vérités. Dans la manière qu'il gère ses différents serviteurs, il y en a 10, vous pouvez d'abord remarquer qu'il confie le même montant, mais que les serviteurs vont avoir différentes stratégies d'investissement. Et après, vous allez voir qu'il répond avec le même éloge pour plusieurs d'entre eux, mais il accorde des récompenses différentes. Voyons ce que nous pouvons apprendre de cette parabole sur notre vie de service. Tout d'abord, notez le même montant qu'il accorde à chacun, qui vont l'utiliser de différentes manières. Mais comme vous savez, cette parabole des 10 mines, elle ressemble à une autre parabole que Jésus a racontée, qui est peut-être mieux connue. On parle de la parabole des talents. Et la parabole des talents a même donné notre mot talent, les talents que Dieu nous a donnés. Mais ici, il s'agit des mines. Donc là encore, Jésus, certainement, il a enseigné à plusieurs reprises ces mêmes vérités, une fois utilisant les talents, une fois les mines. Mais il y a quelques différences intéressantes par rapport à ces deux paraboles. Le parabole des talents, c'est en Matthieu chapitre 25, et le parabole des mines, ici en Luc 19. Il faut savoir que les deux sont des mesures d'argent. Le talent et une mine, c'est une manière qui comptait l'argent. Un talent valait 60 mines, donc les montants sont quand même différents dans les deux paraboles. Une mine, j'ai lu, on dit que c'est à peu près 3 mois de salaire. Donc c'est une somme considérable, sans être énorme et vaste, peut-être plus comme un talent. Mais c'est une somme, déjà 3 mois de salaire, si vous avez ça qui traîne, vous allez peut-être réfléchir à l'investir. Mais une différence que je trouve intéressante, que j'aimerais souligner, c'est qu'en Matthieu 25, le talent, c'est vrai qu'il donne des montants différents à des différents serviteurs. 5 talents, 2 talents, 1 talent. Ici, il donne à tous les serviteurs le même montant. Il a 10 mines, 10 serviteurs, il donne une mine à chaque serviteur. Et si nous voulons appliquer ça à notre vie, je trouve intéressant de réfléchir dans ce sens, que dire, dans un sens, Dieu nous a tous donné, Jésus nous a tous donné le même montant, la même chose. Qu'est-ce que nous avons tous reçu de pareil? Eh bien, nous avons reçu tous pareil une vie à vivre pour Dieu. Nous avons tous 24 heures dans la journée pour servir Dieu. En cela, c'est le même montant. Nous allons voir que c'est vrai qu'il y a parfois, il peut y avoir des différences dans nos capacités, dans notre éducation, notre formation. Mais réfléchissons dans le contexte de cette parabole en Luc 19, en se disant, nous avons tous reçu la même chose. Nous avons tous reçu le même consigne du maître aussi. Faites valoir ta mine. Voici une mine pour toi, voici une mine pour toi, voici une mine pour toi. Maintenant, faites valoir chacune sa mine. Alors, ça c'est le même commandement, le même consigne à chacun de nous, l'ordre du maître. Faites valoir la vie que je vous donne. Faites valoir le temps et les ressources que je vous donne. Investissez-les pour mon royaume. Alors maintenant, on va parler un peu plus concrètement concernant les stratégies d'investissement. Alors vous savez, dans le domaine des investissements et des placements, on parle souvent des rendements et des risques. Ce couple rendement et risque est très important pour les investisseurs. Donc les banquiers ici peuvent vous expliquer ça mieux que moi. Mais quand vous voulez investir de l'argent, certains placements peuvent donner des grands rendements, mais ils sont souvent risqués. C'est-à-dire vous pouvez autant gagner beaucoup d'argent, autant perdre beaucoup d'argent. Mais certaines se lancent dans des investissements, ils cherchent des grands rendements, ils le font. D'autres investissements sont, il y a beaucoup moins de rendements, mais ils sont plus sûrs. Et vous êtes plus ou moins sûr que vous allez pouvoir retirer, peut-être un peu en tout cas. Alors j'aimerais regarder ces serviteurs et voir que oui, il y a des rendements différents, certainement des risques différents derrière. Mais dans le royaume de Dieu, dans l'Église, nous allons trouver différentes stratégies d'investissement avec le même montant. Alors, prenons le cas de celui qui a investi un mine et qui a rapporté 10 mines, c'est le premier serviteur. Ça, c'est un grand rendement, certainement un risque assez élevé pour gérer l'argent ainsi. Et je pense que dans l'Église, aussi à travers le temps, Dieu appelle certaines à des investissements qui peut avoir des grands rendements, mais qui demande beaucoup de risques. Les placements à rendement x10, on aimerait tout ça, mais on le fait pas tous parce qu'on mesure les risques aussi. Vous connaissez peut-être une entreprise qui fabrique des téléphones, des iPhones par exemple. Il y a 10 ans, quand ils ont sorti le premier iPhone, vous auriez pu investir dans cette entreprise. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, vous aurez x10 votre investissement. Donc, placé en bourse, vous aurez, et comme ça, x10, et ça aurait été très intéressant. Alors, pourquoi on l'a pas tous fait? Parce qu'il y a un risque derrière. Et donc, les placements en bourse, on va vous dire, oui, le rendement peut être élevé, mais le risque est là aussi. Et investir de cette manière, jouer la bourse, c'est pas forcément pour tout le monde. Il faut une certaine expertise, un sang-froid, une connaissance, une sagesse de comment ça marche. Mais il y a des gens qui font. Et il me semble que dans l'Église de Jésus-Christ, on va trouver des serviteurs, des chrétiens, qui sont appelés à ce genre d'investissement. Je pense à des pionniers dans la mission, parfois qui ont tout donné, qui ont tout laissé, qui ont tout risqué et qui ont vu un grand fruit de leur travail, un grand rendement au niveau de d'âmes touchées par l'Évangile. Cela pas toujours de leur vivant, d'ailleurs. Mais par la foi, aujourd'hui encore, Dieu appelle des gens à se lancer dans l'implantation des églises en France. Il y a un risque de vivre de l'Évangile. On bénéficie pas toujours d'une grande sécurité financière ou autre chose. Oui, le risque est élevé et c'est des domaines où on peut se planter. Il vaut mieux avoir reçu un don et un appel, être bien conseillé, bien entouré pour ce genre d'investissement. Mais c'est précieux que Dieu appelle des serviteurs à investir leur vie, leur temps dans ce service qui après on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas nous le rendement. Cela appartient à Dieu et Dieu peut bénir fois 10. Dieu appelle d'autres à une stratégie plus à risque moyen, plus équilibrée, une portefeuille d'investissement diversifié. Pense à des assurances vie, des choses comme ça, d'autres fonds monétaires. Voilà, vous le risquez là, mais c'est pas extrême. Déjà fois 5, c'est excellent comme placement. Et dans l'église aussi, on va trouver, Dieu appelle des personnes, des serviteurs à investir ainsi. Je pense à ceux qui font des sacrifices considérables pour investir dans l'église, dans la mission, tout en ayant un travail à côté. Je pense à une famille qui fait des choix importants, que ce soit professionnel ou leur lieu d'habitation ou autre chose, en fonction de l'église ou en fonction du royaume de Dieu. Parce que souvent, on réfléchit à l'inverse. C'est ce qui est plus pratique pour mon travail ou pour ma vie. Et après, je détermine mon niveau d'implication dans l'église. Mais certaines vont investir autrement. Je pense à une maman qui met sa carrière en pause pour élever des enfants. Voilà, il y a un risque du regard des autres et de temps perdu, de l'argent perdu peut-être. Ou quelqu'un qui consacre sa retraite au service de la mission. Il a peut-être une situation confortable, mais il va pouvoir grandement servir. C'est des investissements très intéressants. Et puis d'autres vont avoir une stratégie plus conservatrice. C'est le livret A. Voilà. Mais c'est une démarche sage et rentable. Peut-être pas autant que le jouer en bourse, mais il y a ceux qui ont joué en bourse et qui ont tout perdu. Alors celui qui a le livret A, il est toujours là. Et il est content. Et je dirais, c'est aussi une démarche que le maître a cautionné ici. C'est vrai que le dernier serviteur l'a pas fait. Mais le maître a dit, tu aurais pu mettre ton argent dans une banque et retirer des intérêts. Et voilà. Donc c'est une démarche que le maître agrée aussi. Alors c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui vont pas partir à l'autre bout du monde, dans un pays persécuté, à risque de leur vie, ou choisir une vie de célibataire pour être comme l'apôtre Paul pour servir Dieu. Mais il y a plein de chrétiens qui vont pouvoir soutenir et prier pour les missionnaires. Ils vont pouvoir s'investir fidèlement dans leur travail, dans leur famille. Ils vont pouvoir progresser spirituellement tout au long de leur vie et porter du fruit ainsi. Et Dieu aime et agrée aussi cet investissement. Donc vous voyez, avec la même vie, le même temps que Dieu nous donne à chacun de nous, il y a une diversité de moyens à le servir. Ces différentes stratégies, certainement, vont être en fonction de beaucoup de choses, de nos personnalités, de nos dons, de notre expérience, de notre formation. Et peut-être c'est là où le parabole des talents complète une facette de cette réalité. C'est vrai qu'on n'est pas tous différents et Dieu ne nous appelle pas tous au même service. Et donc c'est là les talents, il a reparti des choses différentes. Mais ici dans les mines, on rappelle qu'on a tous même vie à donner, à investir pour Dieu. Et puis je tiens à rappeler que aussi dans cette parabole, le rendement ici est mesuré en termes financiers. Mais méfions-nous d'utiliser cette même mesure pour le fruit spirituel. Dans la vie spirituelle, Dieu n'utilise pas les mêmes mesures, les mêmes chiffres que nous. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas mesuré en chiffres, justement. Même financièrement, au budget ou taille d'église. Dieu mesure aussi, et certainement, la sainteté ou la vie de prière. Et donc, ces mines peuvent aussi illustrer le genre de fruit qu'on va porter, une fruit parfois qui est invisible aux yeux humains, mais que Dieu voit et que Dieu comptabilise. Donc, rappelez-vous que le parabole joue en termes financiers, mais ça, c'est l'image et la réalité, c'est des mesures spirituelles qui appartiennent à Dieu et le rendement vient de lui. Mais le même montant et des stratégies différentes d'investissement, plus ou moins risquées, pour donner des rendements plus ou moins grands. Maintenant, voyons que au retour du maître, qui est aussi une image du jour que nous allons tous rendre des comptes à Dieu, à Jésus-Christ, pour ce que nous avons fait, de ce qu'il nous a donné. Nous voyons que dans cette parabole, tout comme la parabole des talents, pour ceux qui ont été fidèles, c'est le même éloge. Alors, les récompenses sont différentes, mais c'est le même éloge. Il va dire, en verset 16, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines, et lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu étais fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. » Et puis, verset 19, le suivant, il dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Donc, le « toi aussi », je dirais, c'est « toi aussi, tu étais un bon serviteur. Toi aussi, tu étais fidèle. Toi aussi, tu étais fidèle en un peu de choses. » Et dans l'autre parabole qui lui ressemble, Jésus dit le maître dit la même chose aux différents serviteurs. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc, par rapport à ces rendements différents, il faut toujours se rappeler que le Seigneur accorde le même éloge. C'est la même fidélité. L'un n'est pas plus spirituel que l'autre. Celui qui, dont la mine a rapporté 10, il n'est pas plus spirituel que celui dont la mine a rapporté 5. Tous les deux ont été fidèles. Et le troisième serviteur, il aurait été félicité de la même manière, il aurait été récompensé au lieu d'être condamné s'il avait investi son argent, même de manière conservatrice. C'est le même éloge, quel que soit le rendement. Et ça, c'est une grande leçon pour nous. Ce qui compte, c'est notre fidélité. Ce qui compte, c'est cette attitude qui est fidèle pendant l'absence du maître. Dieu n'accorde pas sa bénédiction, sa faveur, son approbation en fonction de la quantité des choses que nous faisons pour lui, que nous apportons à lui. Il faut toujours se rappeler, d'ailleurs, que la mine d'origine, tant les mines rapportées, appartiennent au maître. C'était pas les mines des serviteurs, c'était les mines des maîtres. Et les serviteurs reconnaissent cela en disant, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Ta mine a rapporté 5 mines. C'est ta mine. Et nous nous rappelons que la vie que nous avons, la foi que nous avons, la vie en Dieu que nous avons, c'est la sienne. Ça vient de lui, c'est un don. Si je pense que c'est ma mine, mon travail, mes efforts, et que je dois mériter, que je dois acheter la faveur du maître, là, on s'éloigne de la foi chrétienne, on s'éloigne de la bonne nouvelle qui nous rappelle que tout est grâce, tout est don de Dieu. Notre salut, aussi bien que notre service que nous allons faire là par la suite, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Donc nous ne méritons pas par nos efforts l'approbation du maître, tout comme ses serviteurs l'ont pas fait. C'était le même éloge, quel que soit le montant, pour montrer qu'ils n'étaient pas en train de le mériter. Mais nous pouvons dire, et c'est un enseignement que nous trouvons dans le Nouveau Testament, cette réalité de la grâce et de la foi n'est pas incompatible avec les récompenses au ciel que Dieu va accorder à ses enfants fidèles. Parce qu'ici, donc c'est le même éloge, c'est bien, fidèle serviteur. Et après il dit, toi reçois la gouvernance de 10 villes, celui qui avait rapporté 10 mines, et puis celui qui avait investi de manière à rapporter 5 mines, il dit, reçoit la gouvernance de 5 villes. Alors, il est difficile à savoir exactement à quoi correspond la gestion des villes, à quoi ça pourrait représenter dans le royaume futur éternel de Jésus. Certaines vont aller dire jusqu'à c'est vraiment littéral, on va régner sur des villes. Mais on reste quand même dans une parabole, dans l'image. Donc, on ne sait pas à quoi correspond la gestion des villes qui se pourrait représenter comme récompense. Mais le Nouveau Testament, effectivement, parle des honneurs, peut-être certaines responsabilités qui sont confiées à des personnes dans les nouveaux cieux, dans la nouvelle terre. C'est le même salut, c'est la même récompense d'être dans la présence de Dieu, de voir sa face, d'être dans le bonheur éternel. Et puis, mais on sera active pour l'éternité à servir, à adorer Dieu. Et donc, dans ce moment, les récompenses pourraient entrer en jeu. Bien sûr, le catrice dans tout ça, il y en a plusieurs catrices, mais le premier catrice, c'est celui qui ne reçoit pas de récompense. Ce serviteur infidèle, c'est le troisième cas. Celui qui, tout ce qu'il a fait, c'était le mettre dans un linge. D'ailleurs, tous les conseillers financiers disent ça, c'est pas intéressant juste de mettre votre argent sur un compte courant et de ne rien faire avec. Surtout si ça représente une somme importante. Ça, ou mettre sous un matelas, tout le monde dit ça, c'est le moins intéressant. Et ce serviteur, donc, il n'a rien fait. Alors, la difficulté d'interprétation, c'est dans ce parasha, c'est de savoir est-ce qu'il s'agit d'un croyant infidèle ou d'un incroyant infidèle, un chrétien infidèle ou un non-chrétien infidèle. On est tout le monde est d'accord qu'il était infidèle avec les biens que le Seigneur lui a confiés. Est-ce que c'est au fond un chrétien ou quelqu'un qui n'a jamais été un chrétien? Dans le parabole des talents, c'est évident que c'est quelqu'un qui n'a jamais été chrétien. Mais ici, peut-être à la différence des paraboles des talents, où Jésus veut peut-être appuyer une autre vérité, ce serviteur, ce troisième serviteur, il perd sa mine, il perd sa récompense. Il n'a pas de récompense. Mais on parle pas... Mais c'est tout ce qu'on dit au sujet de lui. Et ça semble être distingué par rapport aux ennemis qui n'ont pas voulu que le maître règne sur eux. Donc, puisque dans cette parabole, on a en fait deux histoires pour le prix d'un. Il y a l'histoire des serviteurs, mais en même temps se déroule l'histoire des concitoyens qui ne veulent pas que ce maître règne sur eux. Donc, il y a une troisième catégorie, en fait. Il y a des serviteurs fidèles, des serviteurs infidèles et des citoyens carrément rebelles. Et ces citoyens rebelles, c'est ceux comme les pharisiens, comme les autorités juives, qui sont sur le point de rejeter Jésus-Christ, de vouloir le crucifier, de ne pas croire en lui. Mais il reste le cas de ce serviteur infidèle qui n'a pas su sagement gérer son temps et sa vie. Et c'est vrai que, par exemple, l'apôtre Paul parle de ce cas de figure, si c'est bien un chrétien croyant, en disant, ça c'est 1 Corinthiens 3, il parle de quelqu'un qui est une manière d'investir dans l'Église, aussi de servir l'Église, de construire, de bâtir l'œuvre de Dieu. Et il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc Paul évoque ce qui pourrait ressembler à cette personne. Une récompense perdue, mais néanmoins un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. En tout cas, si c'est le cas, ça quand même peut nous interpeller et nous avertir. Cela peut représenter le croyant qui ne connaît pas ses dons, qui ne cherche pas à les connaître, qui n'investit pas son temps et ses dons, sa vie dans l'œuvre de Dieu, qui ne s'implique pas, qui est souvent critique de ce que font les autres, qui veut bien consommer mais qui veut pas donner. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a une mauvaise image de son maître. Il dit, j'avais peur de toi. C'est parce qu'il a peur du maître. Mais les accusations, les reproches qu'il fait au maître sont pas vrais. Ce maître n'est pas un maître méchant et sévère qui moissonne où il n'a pas semé. Au contraire, les autres serviteurs montrent qu'ils apprécient leur maître, qu'ils aiment leur maître. Et c'est peut-être là pour nous. Pour ceux qui ne servent pas Dieu, ceux qui ont du mal à s'impliquer dans son service, se peut-il parce qu'ils connaissent mal Dieu, ils connaissent mal Jésus, ils n'ont pas goûté à son amour, ils n'ont pas vu en lui ce trésor dont on a chanté ce matin, cette beauté. Et quand on connaît un tel maître, on veut lui plaire, pas pour obtenir, négocier un verdict sans faveur. Dans ce cas-là, on a toujours peur. Mais quand on sait qu'il nous aime et qu'il nous a donné sa vie pour nous, on l'aime et on veut lui plaire, on va investir sa vie dans son travail, comme les deux autres. En plus, nous, chrétiens, le maître que nous servons, c'est Jésus. C'est un maître qui a donné sa vie pour ses serviteurs. On pourrait jamais dire c'est un homme sévère qui nous traite de manière dure. Une fois qu'on a vu la croix, une fois qu'on a vu ce qu'il a fait pour nous à la croix, comment traiter Jésus le maître ainsi? On peut pas. C'est un maître bon, c'est un maître qui nous aime, c'est un maître qui vit avec nous. Alors, on veut le servir, on veut rester près de lui. Et ce qui compte pour nous, c'est son approbation, c'est d'entendre ce maître, ce bon maître dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est un maître joyeux, finalement. Et ce dernier serviteur connaissait pas ce maître joyeux. Nous avons un Jésus. Qui déborde de joie et de bonté, même s'il est au ciel, qui règne, et nous pouvons nous investir pleinement pour lui. Bien sûr, il y a ceux qui veulent pas de son règne, ça c'est les incroyants, les incrédules, qui qui refusent son royaume. Et Dieu parle d'un châtiment qui les attend. Alors je termine avec ma même question. Donc, quelle est votre stratégie d'investissement avec votre vie en attendant le retour de Jésus-Christ? Et j'aimerais dire que la configuration de notre Église offre des moyens assez faciles à ressembler à ces trois serviteurs. La configuration de notre Église vous donne la possibilité de ressembler à un de ces trois serviteurs. Il y a plein de choses qui se placent, il y a plein de domaines où vous pouvez servir. Et vous pouvez investir aussi autant que vous voulez. Vous demandez à de responsables de service, personne ne veut dire non, je veux un minimum d'investissement de votre part parce que il n'y a pas grand chose à faire autour de nous. La ville de Toulouse a déjà plus ou moins tout ce qu'il lui faut au niveau de l'évangile. Non. Tout le monde va vous dire oui. Vous pouvez investir autant que vous voulez. Bien sûr, sagement, et on néglige pas sa famille, on néglige pas ses autres devoirs, mais voilà. Donc l'Église vous offre plein de moyens d'investir. Mais une église de notre taille aussi vous offre la possibilité, ce qu'il faut éviter, je dirais, à être ce troisième serviteur qui ne fait rien, qui reste là, qui a peur de s'impliquer, qui a peur de s'engager, qui se contente de juste assister. Et voilà, c'est pas impossible de pratiquer ça non plus. Mais Dieu nous appelle à autre chose. Et aujourd'hui, nous voulons célébrer, et par le baptême, et maintenant par cet apéro des nouveaux, on veut aussi encourager les nouveaux à pouvoir s'intégrer et s'impliquer dans une vie de service. Cet après-midi, une assemblée générale où nous allons encore, chacun de nous, pouvoir servir le Seigneur, les membres de l'Église, que Dieu nous aide à servir de la manière auquel il nous appelle, fidèle, et que c'est lui qui donne le fruit à sa gloire. Prions.